Je passe maintenant à la présentation de notre conférencier du soir, M. Daniel Cohen. Daniel Cohen est né en 1953, il est économiste, il est professeur à l'École normale supérieure. Pour, je dirais, quelques mots sur son parcours, il est ancien élève de l'ENS, il est agrégé de mathématiques, docteur d'État en sciences économiques, agrégé des facultés de droit et de sciences économiques. Il est membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et il est éditorialiste associé au journal Le Monde. Daniel Cohen a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées, mais il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, j'en citerai un certain nombre, en tout cas tous ceux qui sont disponibles en français, « Monnaie, richesse et dette des nations » publié en 1987 aux presses du CNRS, « Les infortunes de la prospérité » publié en 1994 chez Julliard, « Richesse du monde, pauvreté des nations » publié chez Flammarion en 1997, Notons modernes publié chez Flammarion en l'an 2000. Les trois derniers ouvrages, je crois, sont tous disponibles en livre de poche. Et Macroéconomie avec Olivier Blanchard, publié chez Pearson Education en 2002. Daniel Cohen, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Bien, merci de votre invitation. Merci à tous d'être venus ici si nombreux. Je ne pensais pas que vous soyez si nombreux, donc ça change un peu la façon dont je vais me présenter le dialogue avec vous ensuite. Mais enfin bon, allons-y. Pour parler de cette nouvelle économie monde, puisque c'est le titre de la conférence, je crois qu'il est... Il est d'abord important de bien prendre la mesure, je crois que vous en êtes tous convaincus, sinon vous ne seriez pas si nombreux ici, bien prendre la mesure du fait que parler de la mondialisation, de la globalisation, ça n'est pas un vain mot, c'est bien une période essentielle de l'histoire, on va dire humaine, qui est en train de se jouer aujourd'hui. Pour simplifier et dire très vite un certain nombre de choses de mise en perspective, il est indiscutable que depuis, on va dire, la mort de Mao jusqu'à la fin du mur de Berlin, dans un très bref espace de temps qui va donc au fond de la fin des années 70 au tout début des années 90, une espèce de cataclysme planétaire s'est produit. Et ce cataclysme, c'est tout simplement que d'immenses blocs de population qui vivaient autrefois, c'est-à-dire tout au long du XXe siècle, en dehors de la mondialisation comme on l'appelle maintenant, c'est-à-dire pour simplifier et donner un terme plus précis, en dehors du capitalisme mondial, se sont brutalement bousculés aux portes de ce capitalisme mondial et ont voulu y participer de manière et à des degrés divers. Et avant de rentrer dans le détail de ce qui les attend, de ce qui nous attend, de ce qui attend à ce monde ainsi constitué, il n'est pas inutile d'abord de prendre la mesure des raisons pour lesquelles, au fond, cette digue a sauté et des raisons donc pour lesquelles, tout d'un coup, aussi vite, tant de gens à la fois, tant de peuples, tant de civilisations, comme on dit aussi maintenant avec Huntington, se sont pressés aux portes d'un capitalisme dont auparavant, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, en 1970, en 1975, il ne voulait pas. Et pour répondre à cette question, il est en fait important de répondre même brièvement à cette question-ci, qui est de comprendre pourquoi en 1970, en 1975, tant de gens, en inversant maintenant les choses, ne participaient pas à l'aventure d'un capitalisme mondial auquel maintenant ils veulent participer. Qu'est-ce qui s'est passé au fond au cours du XXe siècle qui a fait en sorte que toutes ces grandes masses de population, que sont la Chine, que sont l'Inde à des degrés divers, que sont l'ex-URSS et beaucoup d'autres pays, y compris en Amérique latine, et en fait, au cours de ce XXe siècle, choisi un mode de développement si opposé à celui qu'aujourd'hui, entre guillemets, ils entendent rejoindre. C'est « entendre » qui est entre guillemets, on y reviendra tout à l'heure, ça fait partie du débat. Et pour répondre à cette question, il faut revenir encore un cran en arrière, et voir que l'attitude des pays aujourd'hui en voie de développement au cours du XXe siècle a été dans une large mesure déterminée par l'expérience de ce que les économistes appellent la première mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation du XIXe siècle. On vit un événement unique à de nombreux égards, mais qui répète pourtant un événement qui s'est déjà produit au cours du XIXe siècle. Et c'est de ce moment du XIXe siècle que, très brièvement, je vais dire quelques mots avant d'entrer dans le détail de ce qui se passe aujourd'hui. Au XIXe siècle, le capitalisme mondial était, au dire de certains économistes, beaucoup plus intense que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il était plus intense pour deux raisons. La première, c'est que, contrairement au capitalisme actuel, le capitalisme du XIXe siècle était porté par une formidable mobilité du travail et des personnes. Les migrations internationales au cours du XIXe siècle sont hors de proportion avec celles qu'on connaît aujourd'hui, et c'est ce qui fait que tout au long du XIXe siècle, des territoires entiers sont occupés à partir de l'émigration venue d'Europe du Sud, d'Europe orientale. Je pense évidemment ici aux États-Unis, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et d'une certaine manière aussi à l'Afrique du Sud. Donc on a une première mondialisation qui est portée par une migration internationale sans précédent avant, sauf peut-être la traite des esclaves juste avant, en termes de nombre de gens concernés, pas en termes de déterminants et de motivation évidemment, et qu'aujourd'hui on ne retrouve pas. C'est un des premiers points qu'il faut garder en tête. On a aussi aujourd'hui une mondialisation exceptionnelle, mais on pourrait dire que c'est une mondialisation immobile, entre guillemets. Les gens bougent beaucoup moins, ils bougent par la pensée, ils voient la télévision, ils échangent des marchandises, mais bougent beaucoup moins qu'ils ne bougeaient au XIXe siècle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui est très importante, c'est que c'est au cours du XIXe siècle que les pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement sont pour l'essentiel devenus en voie de développement. Il y a beaucoup de controverses parmi les économistes sur la question de savoir quelle était la situation de l'islam, de la Chine et de l'Inde au début du XIXe siècle, au début du XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de signes qui montrent que la poussée de l'Europe sur la scène mondiale était déjà engagée, on va dire pour simplifier, dès le XVIe siècle, dès le moment de la première conquête du monde par les Européens, dont je ne vais évidemment pas avoir le temps de parler, ou bien sinon on n'en sortirait jamais. Mais dès le début du XIXe siècle, l'Europe est déjà poussée par une force nouvelle qui lui vient d'un peu avant et qui lui donne un avantage. Alors c'est là qu'il y a débat avec au sein des économistes, qui lui donne un avantage sur un certain nombre d'autres pays, d'autres régions que je viens de citer, l'Inde, la Chine ou l'islam. D'après les économistes les plus pertinents en ce domaine, le rapport de richesse par habitant entre, disons, l'Angleterre, qui va être la grande nation commerçante du XIXe siècle et qui, pour simplifier, occupe au XIXe siècle la place qui est aujourd'hui celle des États-Unis, de grande puissance commerciale dominante qui tient par son Commonwealth d'immenses blocs de population sous sa politique commerciale. Le rapport de richesse qui pouvait exister au début du XIXe siècle entre, disons, l'Inde et l'Angleterre et l'Inde, était dans un rapport déjà de 1 à 2. Tout au long du XIXe siècle, pour rester sur cet exemple de l'Angleterre et de l'Inde, qui est parfaitement représentatif de ce qui se passe dans les autres blocs, dans les autres régions du monde, l'Inde va subir la loi anglaise dans le domaine du commerce international. C'est-à-dire que l'Inde et l'Angleterre vont être soudées dans un marché quasi unique. Il n'y aura aucune barrière tarifaire en Inde, qui viendra protéger, le cas échéant, les industriels de la concurrence anglaise. Il y aura à l'état pur le modèle du commerce international tel qu'en ont rêvé les grands théoriciens du commerce international du début du XIXe siècle, c'est-à-dire tel qu'en ont rêvé les gens comme David Ricardo, qui pensent que le commerce est une excellente chose parce qu'il donne à chacun le moyen de se spécialiser dans la tâche où, relativement aux autres, il est le meilleur, chacun faisant donc ce qu'il a de mieux à faire, laissant l'autre faire la même chose. Et au fond, à l'image de ce qui se passe dans une grande nation, où les uns sont boulangers, les autres cordonniers, les autres ce que vous voudrez, eh bien, à l'échelle du monde, chacun va se spécialiser au mieux des intérêts et de chacun et du tout dans une tâche particulière qui lui est assignée par une division internationale du travail. C'est exactement ce qui va se passer au cours du XIXe siècle. Et donc, si on devait mettre en vis-à-vis une théorie et une histoire, une théorie qui serait celle du commerce international et une histoire qui serait celle qui permettrait de prédire ce que le commerce international fait aux parties qui sont liées par ce commerce, il n'y aurait pas de plus beau modèle que celui du XIXe siècle et notamment celui de l'Angleterre avec ces colonies, pour le dire simplement, que sont l'Inde d'abord, puis la Chine, puis jusqu'à un certain point l'Empire ottoman. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est très simple. On observe qu'au cours de ce siècle, loin de rapprocher les richesses entre elles, ce qui était un peu l'idée de Ricardo, chacun va commercer et puis on œuvre tous au bien public et chacun en tirera des fruits plus ou moins proportionnés à l'effort de chacun. Eh bien, loin d'observer ça, qu'est-ce qu'on observe? On observe au contraire un formidable élargissement des écarts qui existent entre ces deux nations. Ces nations qui sont dans un rapport de 1 à 2, ce qui est beaucoup pour cette époque, mais qui est peu au regard de ce qui va suivre ensuite, cet écart de 1 à 2 est multiplié par 5. Et à la fin du XIXe siècle, c'est tout simple, on voit l'Inde 10 fois plus pauvre que ne l'est l'Angleterre. Pourquoi? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que le modèle du commerce international tel qu'il a été écrit par David Ricardo, qui prédit que chacun doit se spécialiser dans une tâche où il est le plus avantagé par la nature, par son histoire, etc., est exactement celui qui va se passer. C'est-à-dire que tout au long de ce siècle, on va assister effectivement à une spécialisation des tâches. Les Anglais vont se spécialiser dans l'industrie manufacturière, l'industrie tout court, comme on dirait aujourd'hui, mais pour les Anglais, c'était surtout l'industrie textile. Et les Indiens vont abandonner ce secteur où pourtant ils n'étaient pas mauvais au début du 19e siècle. Ils exportaient au début du 19e siècle des soieries, des indiennes, comme on les appelait, qui étaient très recherchées en Occident. Ils abandonnent ce secteur face à la rivalité de l'industrie anglaise et eux-mêmes vont se spécialiser là où, comme Ricardo le disait, ils disposent d'un avantage comparatif. Quels sont les avantages où les Indiens peuvent se spécialiser au cours du 19e siècle? Eh bien, c'est très simple, c'est les produits qu'on ne fabrique pas en Angleterre, c'est-à-dire le coton, la jute, l'indigo et l'opium. L'opium, qui est un des produits où l'Inde excelle par rapport à ses concurrents, il ne lui faut qu'un seul marché où elle puisse le vendre. Le marché est tout trouvé, c'est la Chine qui est juste à côté, qui est un gros consommateur d'opium, enfin qui l'était, l'Empire ayant essayé d'empêcher les importations d'opium vu les ravages que ça produisait sur sa population, mais l'Angleterre fait la guerre de l'opium pour obliger la Chine a importé librement cette marchandise que les Indiens fabriquent très bien, à charge pour les Chinois de payer en soie, qui sont ensuite réexportés en Angleterre. Donc on a un circuit un peu bizarre, on dirait aujourd'hui, mais en tout cas qui épouse totalement la prédiction théorique qui était faite, et dont le résultat est très simple. L'Angleterre, spécialisée dans l'industrie textile, s'enrichit parce que c'est là que sont les réserves de productivité, c'est là que l'on produit de plus en plus, de mieux en mieux, etc., et l'Inde a le sentiment qu'elle végète parce qu'elle est rejetée à la périphérie de la division internationale du travail en ne fabriquant que des choses comme la jute, l'indigo, qui n'ont pas de pouvoir d'entraînement sur le reste de leur économie. Voilà l'histoire telle qu'elle se produit au cours du 19e siècle. C'est une histoire très approximative. Je ne vais pas avoir le temps dans cette conférence de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé également au cours du 19e siècle. On pourra en parler dans la conférence. Ce qui est important ici, c'est que c'est l'image telle que, à la fois, on l'observe et surtout telle que les Indiens, les Chinois, les Turcs vont la retenir ensuite. Et lorsque, à leur tour, ils vont devenir des nations indépendantes, toutes vont partir de cette prémisse qui est que la mondialisation, le commerce international est une mauvaise chose pour eux en tant que, comme le 19e siècle a montré, il ne fait rien pour empêcher l'élargissement des écarts entre le pays dominant et, pour dire vite, le pays dominé. Et donc, au moment de leur indépendance, tous ces pays, les uns après les autres, vont en fait choisir des voies protectionnistes. Et ils vont se sentir d'autant mieux fondés à choisir une voie de croissance protectionniste que les autres pays européens, hors l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, ou que ce soit, pour faire vite, les États-Unis, donc ex-croissance de l'Europe au XIXe siècle, chacun de ces pays va en réalité, au cours du XIXe siècle, se protéger de la concurrence anglaise, qui est la grande puissance industrielle de son époque, en ayant soi-même des barrières protectionnistes. Les États-Unis font la guerre de sécession en 1860 pour en réalité imposer au Sud, qui est libre-échangiste, des barrières tarifaires. L'Allemagne se constitue comme nation à partir de ce qu'on appelle le Zollverein, qui est une zone de libre-échange interne, mais protégée par des barrières tarifaires. Et la France, à part un très bref épisode au milieu du Second Empire, aura aussi une politique protectionniste, toujours pareil, pour empêcher la rivalité avec l'Angleterre. Donc, le diagnostic dont héritent les pays, encore une fois, devenus en voie de développement au début du XXe siècle est simple. Pour s'industrialiser, il ne faut surtout pas commercer avec une puissance industrielle, puisque la théorie et l'histoire nous disent tous les deux que la puissance industrielle s'industrialisera encore plus du fait du commerce qu'elle aura avec nous, et nous, elle nous repoussera dans une division du travail qui nous empêchera de nous industrialiser. Et à l'époque, dans l'esprit de tout le monde, enrichissement et industrialisation vont de pair. Il n'y a pas l'idée que ça puisse en fait être dissocié. Alors, voilà pourquoi, tout au long du XXe siècle, les politiques en pratique, sinon explicitement revendiquées comme telles, suivies par la Chine, l'Inde, l'ex-URSS et la Turquie aussi, sera toujours d'être une politique protectionniste, c'est-à-dire une politique aussi coupée que possible du commerce avec les grandes puissances industrielles du XXe siècle, les États-Unis, l'Angleterre et l'Europe en général. Et là, l'histoire est malheureusement tragique pour les pays en voie de développement. Je disais tout à l'heure que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres était passé de 1 à 2 à 1 à 10 au cours du XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, l'écart passera de 1 à 10 entre les plus riches et les plus pauvres à 1 à 50. C'est-à-dire que loin d'être une force de rappel qui évite que les plus riches et les plus pauvres ne s'éloignent les uns des autres, comme on l'avait déjà vu au cours du XIXe siècle, le protectionnisme du XXe siècle va en fait aggraver les écarts entre les deux. Et c'est au fond ce constat que chacun à sa manière, la Chine, puis l'Inde et l'ex-URSS, de manière différente, avec une histoire particulière, etc., mais tous et à peu près au même moment, vont faire à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que, pour parler de la Chine, ayant en vis-à-vis une petite île minuscule qui s'appelle Taïwan et qui, pour des raisons strictement politiques et certainement pas pour des raisons qui tiendraient à un raisonnement économique, a choisi d'inscrire sa stratégie de développement dans le cœur du marché américain, c'est-à-dire en fondant sa stratégie sur les exportations vers le marché américain, en voyant la Corée, qui pour les mêmes raisons d'inquiétude du Sud par rapport au Nord, va choisir également une politique qui va inscrire son industrialisation dans un commerce avec les États-Unis. Quand la comparaison sera faite entre le destin de ces quatre dragons, il faut ajouter Hong Kong et Singapour, qui vont chacun faire du commerce et ceux qui vont choisir de ne pas en faire, alors que tandis que ceux qui n'ont pas fait le commerce s'éloignent dans un rapport de 1 à 50 dont je parlais à l'instant, les autres semblent rattraper les États-Unis. Et les exemples abondent. Le plus simple, c'est celui de Singapour, qui était une petite ville minuscule, sans alphabétisation, sans industrialisation, sans rien, qui a inscrit son développement entièrement dans le commerce mondial et qui a, au milieu des années 90, tout simplement, rattraper son ancien maître, l'Angleterre, devenant plus riche en habitants que l'Angleterre, et donc laissant tout simplement stupéfait les autres nations autour qui avaient choisi une voie de développement inverse. Je ferme cette longue introduction, même si j'ai déjà bouffé pas mal de mon temps, pour dire que au début des années 80, on est passé d'un diagnostic partagé au début du XXe siècle, le protectionnisme nous sauvera de l'Angleterre, à un autre qui est le protectionnisme nous a en réalité fait perdre du terrain par rapport à ceux qui avaient choisi une voie inverse. Et on en est là, au fond, au début des années 80. L'histoire s'est un peu écrite depuis, mais les incertitudes restent les mêmes. La question qui se pose, c'est tout simplement, est-ce que le 21e siècle, s'il doit être le siècle de la globalisation économique, c'est-à-dire une forme de retour à ce qu'on a connu au 19e siècle, eh bien, qu'est-ce que le 21e siècle prépare aux pays pauvres après, je dirais, deux mauvaises surprises? Est-ce que ça va tout simplement stabiliser les choses? Est-ce qu'on peut y voir l'espoir qu'un rétrécissement des revenus des habitants de la planète soit à l'œuvre? Et c'est ça dont je vais parler un petit peu maintenant. Alors, disons très simplement que les handicaps qui attendent les pays en voie de développement aujourd'hui sont immenses, et toute idée naïve selon laquelle la force du marché, un peu comme Ricardo pouvait le prédire au début du XIXe siècle, suffirait à elle-même à rattraper, à faire converger les écarts, à corriger les écarts qui existent aujourd'hui entre les pays pauvres et les pays riches, c'est évidemment absolument absurde. Alors je vais commencer par les mises en garde contre les idées naïves selon lesquelles tout va bien, pourvu qu'on commerce, on va réussir à se rapprocher les uns des autres, avant de donner peut-être un certain nombre de messages d'espoir sur ce qui pourrait malgré tout se passer à condition que, et on verra justement ce que ces conditions doivent être. Alors, la première naïveté, je vais en énoncer deux assez rapidement, pour comprendre ce que le commerce mondial va faire aux pays pauvres aujourd'hui. La première naïveté, ce serait par exemple celle qui dirait on est dans un monde aujourd'hui totalement intégré par Internet, même si ça ne fonctionne pas ce soir, Internet qui va permettre à tous les pays de la planète, pourvu qu'ils aient accès à une ligne Internet, alors je ne vais pas avoir le temps bien entendu de parler de tout, mais dans ce pourvu, il y a beaucoup de choses, quand on sait que le pourcentage de pays pauvres qui ont par habitant des lignes téléphoniques au niveau de ceux qu'on a aujourd'hui est tout simplement dérisoire, et que même en Inde, il n'y a que 4% de la population qui a tout simplement une ligne de téléphone fixe chez soi. Donc avant de parler à Internet, il y a encore beaucoup de choses qui resteraient à faire, mais en passant outre cette question qui est évidemment essentielle pour bon nombre de pays, l'idée que Internet, par exemple, signerait l'avènement d'un monde où chacun pourrait, aux quatre coins du monde, participer à une élaboration industrielle mondiale, et que donc, ce faisant, les barrières qui séparent comme des océans auparavant les pays riches des pays pauvres vont s'abaisser et permettre à la prospérité de se déverser des pays riches vers les pays pauvres, cette idée est évidemment extrêmement naïve. Alors, elle est naïve intuitivement, il faut essayer de comprendre un tout petit peu plus en détail pourquoi elle l'est vraiment. Alors, une bonne illustration des raisons pour lesquelles cette idée est naïve, c'est tout simplement de revenir à la première mondialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, de revenir au 19e siècle. Le 19e siècle, pour ses contemporains, ça a été d'abord ça, une formidable révolution dans les moyens de communication. Le 19e siècle, c'est le moment où on peut croire que le monde va être unifié grâce à la révolution des moyens de communication. La révolution des moyens de communication, c'est d'abord le chemin de fer qui fait que tout d'un coup, on a... je croyais que vous vouliez que je sois tout près. D'accord. Donc, c'est d'abord les chemins de fer qui fait que les distances à l'échelle des nations sont considérablement rétrécies. C'est ensuite le télégraphe. Il fallait plusieurs dizaines de jours pour envoyer une lettre d'un coin de l'Europe à l'autre. Avec le télégraphe, il faut 24 heures pour qu'une information soit envoyée de Londres à Bombay. Et puis ensuite, le téléphone, les câbles transatlantiques et toutes sortes d'autres innovations absolument formidables. Le creusement du canal de Suez, le bateau à vapeur et ensuite le bateau frigorifique qui va faire que, à la fin du 19e siècle, on exporte du bœuf d'Argentine vers l'Europe, on exporte déjà du beurre de Néo-Zélande, de Nouvelle-Zélande à l'Europe. Tout ça, pour les contemporains du 19e siècle, c'est une formidable révolution dans les moyens de communication qui, de fait, unifie le monde, en tout cas au moins, quand on mesure cette unification, à l'aune de critères très simples, qui est la différence entre le prix du blé à Chicago et le prix du blé à Paris. C'était dans un rapport de 1 à 2 au milieu du 19e siècle, c'est pas avec Paris, c'est avec Londres qu'est faite la comparaison. En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, les écarts sont inférieurs à 10-15%, ce qui veut dire qu'à la fois l'information circule immédiatement et qu'on sait qu'on pourra envoyer ce qu'il faut pour rétablir la parité des prix. Tout ça fait que le monde du 19e siècle est déjà une formidable réduction des coûts de communication et pour les historiens, beaucoup plus spectaculaire que celle que Internet ajoute aux moyens de communication dont on dispose déjà. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai déjà raconté l'histoire par rapport à l'Inde, mais racontons-la d'une autre manière qui illustrera la question qui est en jeu. Que se passe-t-il tout simplement dans un pays comme la France, lorsque, on va prendre l'exemple du chemin de fer, lorsque le chemin de fer progressivement permet de relier la capitale aux villes et ainsi de suite, et irrigue le territoire national. Au début du 19e siècle, la France, pour reprendre une image de Leroy Ladurie, est pleine comme un œuf. Il y a des gens partout, et d'ailleurs le fait qu'il y ait des gens partout est le résultat d'une démographie un peu trop forte qui résulte du 17e siècle, et qui fait que tout ce qui peut être occupé l'est, on observe des bourgades, des hameaux. La France est pleine comme un œuf, encore une fois, et où qu'on regarde. Que fait le chemin de fer ? Alors, une théorie naïve du genre de celle qui est servie aujourd'hui pour commenter les effets potentiels d'Internet sur la prospérité du monde consisterait à dire, eh bien, grâce au chemin de fer, les gens qui vivent isolés dans leur hameau et dans leur bourg, eh bien, vont être désenclavés, vont vivre mieux de ces hameaux et de ces bourgs où ils résident, puisque ce qui peut consister pour eux on a un handicap, être loin de la ville, ne pas pouvoir être approvisionné, ne pas pouvoir y vendre leur propre production, va être, grâce à la révolution des moyens de communication, eh bien allégés, ils vont pouvoir tout simplement communiquer, vendre et acheter avec les villes qu'ils voudront sans coût. Qu'est-ce qui se passe au cours du 19e siècle ? Est-ce qu'on observe une tendance accrue à la dispersion des gens sur le territoire national ? Réponse, évidemment non, il se passe exactement le contraire. Ce qu'on observe au cours du 19e siècle, c'est que les moyens de communication, loin de disperser davantage les gens et les richesses sur le territoire, produisent au contraire une formidable concentration des hommes et des richesses sur quelques points très concentrés, de plus concentrés que sont les villes, qui progressivement vont prendre de l'importance, vont dévorer leurs bourgs, leurs faubourgs, leurs hameaux, et le désert français qu'on constate aujourd'hui naît en réalité des moyens de communication. Alors ici, on juste rapidement de comprendre en économiste qu'est-ce qui se passe. La réponse est très simple. Ricardo nous disait, le commerce permet à chacun de faire une tâche où il est le meilleur. Si vous êtes bon musicien et pas très bon cordonnier, soyez musicien. Et moi, bon, je serai cordonnier, je vous vendrai des chaussures. Voilà l'idée de Ricardo. La division du travail, elle résulte des dotations de chacun. Et grâce à cette dotation particulière, chacun pourra prospérer là où il a un avantage sur les autres. Mais ce que la théorie, ce que l'histoire du 19e siècle, à l'image de cette question des moyens de communication saine, c'est que ce n'est pas du tout pour ça que vous ou moi, nous sommes chacun spécialisés dans une tâche. Imaginons un petit village dans lequel les gens sont tous complètement identiques. Supposons qu'il n'y ait que deux personnes, deux groupes de personnes, peu importe. Il faut dans ce village et un cordonnier et un boulanger. Ce n'est pas parce que l'une ou l'autre des personnes sera relativement à son voisin meilleur dans la cordonnerie ou dans la boulangerie qu'ils vont choisir d'être cordonnier ou boulanger. La raison pour laquelle ils vont choisir l'un d'être cordonnier, l'autre d'être boulanger, quitte à lancer une pièce en l'air pour dire lequel des deux fera ceci ou cela, c'est qu'évidemment, il est beaucoup plus rentable de ne faire qu'une tâche que deux, en vertu de ce que les économistes appellent tout simplement des économies d'échelle. On apprend une seule discipline, on a un four et on y met le paquet pour fabriquer un seul produit. Ce n'est pas les dotations naturelles qui font le marché, c'est l'inverse dans cet exemple. C'est le marché qui pousse les gens à se spécialiser et au fond à fabriquer ce qui apparaîtra ensuite comme des dotations naturelles, c'est-à-dire à fabriquer une spécialité. Mais le raisonnement qui est derrière, c'est cette notion d'économie d'échelle. C'est cette notion que plus je fais de la même chose, plus je suis productif à cette même chose. Ce qui fait qu'encore une fois, à l'échelle d'un individu, jamais on ne choisira en général de faire deux métiers à la fois. Mais si c'est ça la force qui est derrière, on comprend immédiatement la concentration des richesses qui se produit au cours du 19e siècle. Car ce qui compte en réalité, c'est de faire le plus de choses possibles. Or, la raison pour laquelle la France est dispersée au début du 19e siècle, c'est que vous ne pouvez pas être boulanger à Paris et fournir votre pain à Rouen. Le coût du transport le rend impossible. À partir du moment où le coût du transport est réduit, vous pouvez concentrer, pour simplifier, toutes les boulangeries que vous voudrez à Paris, et elles pourront fournir la totalité du marché national. Donc, loin d'aider les producteurs locaux à vendre au centre, entre guillemets, leurs marchandises, la réduction des coûts de transport, favorise ce que les économistes vont appeler des effets d'agglomération, c'est-à-dire vont favoriser les économies d'échelle et faire que la prospérité vient là où elle est déjà. Et à partir de là, un mécanisme cumulatif se mettra en place, les producteurs seront de plus en plus nombreux en un seul endroit, ruineront leur périphérie, les paysans, les producteurs de cette périphérie quitteront leur hameau, leur bourg et leur petite ville pour rejoindre la capitale ou la grande ville qui du coup aura à la fois des producteurs et ses propres consommateurs. Et donc on a une transformation radicale de l'équilibre géographique du 19e siècle à cause de la réduction des coûts de communication et non pas en dépit de la réduction du coût de communication. Comme le temps va manquer, je dis donc ici tout de suite une leçon extrêmement importante. Tout ce que l'histoire et maintenant le raisonnement économique éduqué par cette histoire nous dit de la réduction des coûts de communication, c'est qu'elle favorise non pas les forces de dispersion, mais bien plus sûrement les forces d'agglomération. Ces forces d'agglomération, elles peuvent jouer n'importe où. Elles jouent chez nous, la mondialisation densifie le territoire. Chaque fois qu'on apprend à la télé que la mondialisation détruit des emplois, les Moulinex, etc., en réalité, avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez entendre qu'elle détruit des emplois dans les parties du territoire peu denses. C'est-à-dire qu'elle détruit ce qu'il reste de l'essaimage de la population sur un territoire. On ne se plaint jamais à Paris de la mondialisation. Ça ne veut pas dire que les emplois ne sont pas détruits à Paris par la mondialisation ou par le commerce avec d'autres pays. Mais ça veut dire que Paris est devenu une masse suffisamment dense pour qu'un emploi perdu ouvre à un emploi gagné. Par contre, les régions qui souffrent de la mondialisation sont celles qui sont en réalité encore en train de subir les effets, on va dire pour simplifier, de la première mondialisation. Elles continuent de se dépeupler car les gens, les Moulinex et autres, savent que les emplois qui sont détruits chez eux ne seront pas remplacés, quoi qu'on en dise, par d'autres emplois venus ailleurs. Il y aura évidemment d'autres emplois qui viendront remplacer ceux qui sont détruits, mais certainement pas à l'endroit, dans le village, la ville, Nantes, je sais pas quoi, où les endroits, les emplois sont détruits. Ils seront remplacés au cœur, là où se produit l'agglomération des richesses. Donc on a ici un premier effet qui est pénible chez nous, mais qui naturellement a des effets extrêmement paradoxaux dans les pays en voie de développement. Pour les pays en voie de développement dans leur ensemble, ces effets d'agglomération sont aussi à l'œuvre. Ils ne se produisent pas que chez nous. Il y a aussi des effets d'agglomération qui font que on préfère, on va dire, le capitalisme, les forces économiques, comme vous voudrez, préfèrent que tout soit dense dans un même endroit où il y a les producteurs, les consommateurs, où on peut passer d'un producteur à l'autre, où il y a une main d'œuvre justement variée, riche, qui peut fournir toutes sortes de tâches. On préfère ça à une dilution dans tout l'espace. Et la grande question que se posent les pays en voie de développement aujourd'hui, c'est tout simplement, je pense au Mexique, mais l'Inde aussi se pose exactement cette question, est-ce que cette grande ruche qui est en train d'alimenter le monde industriel en produits bon marché n'est pas tout simplement en train de s'agglomérer en un endroit, et celui auquel on pense évidemment c'est la côte est de la Chine, est-ce que la côte est de la Chine n'est pas en train de devenir la grande usine, la grande fabrique industrielle des pays en voie de développement, sans laisser aucune miette, aucune trace aux pays avoisinants. L'Inde s'en inquiète et le Mexique, récemment, a fait exactement la même découverte, malgré un accord de libre-échange avec les États-Unis, qui a eu des effets tout à fait positifs dans un certain nombre de secteurs. Les Mexicains, malgré cette proximité, se posent aujourd'hui la question de savoir si tout simplement la Chine, qui est en train de devenir le deuxième exportateur de produits industriels vers les États-Unis, qui est en train de dépasser le Mexique comme exportateur à destination des États-Unis, eh bien, elle se pose tout simplement la question de savoir si ces effets d'agglomération ne vont pas emporter sur leur passage l'industrialisation mexicaine. Donc voilà une bonne, entre guillemets, première raison pour laquelle la réduction des coûts de transport n'est certainement pas en soi une bonne nouvelle à prendre sans aucune précaution. Ça va changer les choses, ça ne sera pas simplement une polarisation vers les pays riches, mais ça va créer, non pas encore une fois, une uniformisation progressive de l'espace, comme le croient les apologues naïfs d'Internet, mais beaucoup plus sûrement, ça va créer des forces d'agglomération considérables qui créeront beaucoup d'inégalités au sein même des pays en voie de développement. Ça, c'est la première mise en garde. La deuxième mise en garde, elle est plus subtile et elle renvoie, au fond, à une autre façon de se représenter ce qu'est cette nouvelle économie monde, c'est le titre de la conférence, et j'y viens au fond, au cœur maintenant. Une manière simple de comprendre, d'abord chez nous, ce que la mondialisation est en train de faire, c'est d'abord de comprendre que cette mondialisation, pour nous, a des effets difficiles à saisir parce qu'elle est en réalité concomitante d'une autre grande transformation. Cette transformation, elle est en décalé proche de celle qui s'est produite au XIXe siècle, et qui avait produit en partie les résultats que j'ai annoncés tout à l'heure sur la désertification du territoire français. Il y a bien sûr derrière cette désertification du territoire français la révolution des moyens de transport, c'est ce que j'ai dit, mais il y a bien sûr autre chose qui se joue simultanément. Cette autre chose, c'est tout simplement la fin des campagnes, c'est tout simplement l'exode rural, c'est tout simplement la déruralisation du monde français et son industrialisation. La première mondialisation est concomitante pour les pays qui vont devenir industriels, elle est concomitante du passage d'une économie agricole à une économie industrielle. Et au fond, pour le dire très simplement, la première mondialisation hâte cette transformation. Elle accélère cette transformation, en tout cas certainement en Angleterre, où elle l'a précipitée, dans la mesure où cette transformation que l'on sait aujourd'hui inéluctable fait que les Anglais peuvent aller plus vite vers l'industrialisation et plus vite dans l'exode rural, dans la mesure où les ressources agricoles qui viendraient à leur manquer peuvent être importées des autres pays exportateurs de la planète. Mais sans doute que pour les pays riches, la France, l'Allemagne et les États-Unis, le monde aurait été le même sans la mondialisation et que ces transformations dont je viens de parler brièvement se seraient produites aussi parce qu'encore une fois, l'axe essentiel, c'est la fin des sociétés agricoles et l'avènement d'une société industrielle. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est la même mais qui est simplement décalée. Nous avons bien entendu depuis longtemps fini notre exode rural, il ne reste pratiquement plus de paysans. Ceux qui restent sont en prison et donc bientôt il n'y en aura plus du tout. Et bientôt, on n'aura aussi plus d'ouvriers dans les usines. On est, de la même manière qu'on sortait des campagnes au XIXe siècle, on est en train aujourd'hui de sortir les ouvriers de leurs usines. La part de l'emploi dans l'industrie est en chute permanente et régulière. Si on considère que les États-Unis sont en avance sur nous, la part des ouvriers dans les usines aux États-Unis est maintenant proche de 10%, alors qu'il y a encore 40-50 ans, c'était 30-35% de gens qui travaillaient dans les usines. Ça n'a jamais été, ni en France ni aux États-Unis, une majorité de la population qui vivait. Il y avait au lendemain, au début du siècle, une majorité de gens qui étaient tout simplement encore dans les campagnes, et le déclin des campagnes s'est fait concomitamment à une hausse de l'industrie, mais jamais l'industrie n'a été en France ou aux États-Unis majoritaire. Il n'y a qu'en fait qu'en Angleterre que l'industrie a été majoritaire. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir sur le fil de l'histoire. Nous sommes dans une période où la société tout simplement se tertiarise. Nous ne fabriquons plus ou de moins en moins de produits industriels. Pourquoi ? Bien, non pas parce que nous ne consommons plus de produits industriels. On est bourré de produits industriels, nous sommes encore et très largement dans un monde d'objets. Mais les progrès de la productivité au cours du XXe siècle, à quoi s'ajoute le commerce international aujourd'hui, je vais y revenir évidemment, font qu'aujourd'hui, pour fabriquer une masse donnée d'objets, il faut de moins en moins de gens que par le passé. Et les gens qui sont délogés de leurs emplois industriels par le progrès technique ou par les échanges internationaux aujourd'hui, eh bien, vont dans les services où ils deviennent enseignants, aides-soignantes, garagistes, c'est-à-dire des gens qui sont dans une variante tertiarisée de l'industrie automobile ou dans la publicité. Bref, ils sont passés d'une économie industrielle à une économie de services. Et ce passage, pour certains, dont moi jusqu'à un certain point que je vais vous dire maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays en voie de développement. De même que le commerce international les avait désindustrialisés parce que nous nous industrialisons, il est possible de dire que ce qui s'esquisse pour le XXIe siècle, c'est une continuation de notre tendance propre à ne plus faire de produits industriels et, au fond, par un jeu de vases communicants, créer, ce faisant, une force d'appel qui permettrait, avec un siècle de retard, un siècle de retard, c'est pas si mal, on était 10 fois plus pauvres au début du XXe siècle, au début du XXIe siècle, pour les pays en voie de développement, ça peut représenter une multiplication par 5 de leurs revenus, puisque eux sont 50 fois plus pauvres que nous. Donc, pour dire les choses de manière un peu naïve et cynique, il est possible de dire que, a priori, notre désindustrialisation, va entraîner l'industrialisation des pays pauvres. Alors, il y a évidemment beaucoup de naïveté, là encore, à dire les choses comme ça. La première, c'est le jeu des forces d'agglomération dont j'ai parlé tout à l'heure. Les pays pauvres, d'accord, dans leur ensemble, c'est tout à fait autre chose. Il est tout à fait possible que seuls quelques pays profitent au détriment des autres. Ça, c'est la première réserve que j'ai dite il y a un instant. Et puis, il y en a une autre qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grave. C'est que, en fait, la raison pour laquelle nous désindustrialisons, c'est que la création de valeur n'est plus aujourd'hui dans la fabrication de l'objet. La fabrication des objets, il y a d'excellents robots pour les faire. Aujourd'hui, la création de valeur, c'est-à-dire là où il y a une activité économique qui est utile parce que rare et qui est donc rémunérée, elle est désormais au debout de la chaîne de production. Ce que notre société de service fait, c'est deux choses extrêmement simples, c'est concevoir des produits nouveaux et les fabriquer le plus vite possible, c'est la phase qui devient inessentielle, et prescrire ces produits nouveaux. On est dans une société, pour le dire simplement, nous, pays industriels, ex-industriels, il faudrait dire post-industriels, nous sommes dans une société de conception et de prescription. On conçoit des produits, prenons l'exemple des médicaments, on conçoit de nouvelles molécules, et il y a des médecins qui les prescrivent. La fabrication du médicament, c'est une tâche qui ne représente plus aucune valeur. Dans cet espace-là, les pays en voie de développement sont happés par la phase intermédiaire. Mais la valeur qu'ils vont en capter est évidemment totalement dérisoire en vertu de ce que je viens de dire. Alors, je vais vous donner des chiffres qui illustrent la part supposément laissée aux pays en voie de développement dans cette nouvelle division internationale du travail. Un exemple très, très habituel, qui est donné d'ailleurs par les gens qui ont protesté contre les usines Nike pour le traitement qu'ils réservaient aux enfants ou au travail en Indonésie. Et c'est justement un chiffre que j'ai extrait de je ne sais plus quelle ONG qui avait donné dans le détail le coût de fabrication d'une paire de Nike. Alors, la chaussure dont je vais vous parler s'appelle Air Pegasus, donc personnellement j'ignore totalement ce qu'elle est, mais ce que je sais c'est qu'elle est vendue aux États-Unis $70. Donc, cette chaussure Air Pegasus est vendue $70. Combien gagne la personne qui la fabrique ? Réponse, elle gagne moins de $3, celle qui fabrique cette chaussure. Donc, on est dans un port évidemment hors de normes, hors de proportion entre la valeur pour le consommateur, la valeur que ce consommateur paye cette chaussure et le salaire de celui qui la reçoit. Mais continuons, parce que ça ne suffit pas à éclairer le jeu qui peut s'instaurer entre une société post-industrielle comme la nôtre et les sociétés industrielles, entre guillemets, des pays pauvres. En fait, pour l'usine qui, en Indonésie, fabrique cette chaussure, le travail n'est déjà qu'une part faible de la valeur de la chaussure. Parce que la chaussure, elle comporte aussi du cuir, des lacets, toutes sortes de choses. Donc il y a beaucoup de matières premières. Et le travail est déjà une part faible de la matière première qui doit être travaillée pour fabriquer cette chaussure. Ensuite, il faut évidemment louer des usines, des mètres carrés, rémunérer le capital qui est investi en Indonésie, payer les coûts de transport et amener cette chaussure, une fois faite comme objet physique, aux portes des États-Unis, disons dans un port californien. Quand on regarde le coût pour Nike de faire fabriquer et d'importer et de payer les droits de douane, tout ce qu'on voudra, cette paire de chaussures, elle coûte à Nike, cette paire de chaussures, elle coûte $17. Donc dans ces $17, il y a toutes sortes de coûts. Le travail est déjà moins de $3, une part faible, mais vous voyez que le coût de l'objet physique est important, $17, mais faible au regard de ce que ça va finalement coûter au consommateur. Alors, continuons de décliner la suite des coûts. Comment passe-t-on de $17 le produit à San Francisco, quand il arrive dans le port, à $70 au consommateur ? Nike va naturellement transformer, on pourrait dire, cet objet physique en un objet social, c'est-à-dire un objet qu'on a envie d'acheter. Un objet qui donne du désir. Donc, il va engager des campagnes de publicité. Il y a toutes sortes de sportifs qui vont l'apporter. Donc, tout le livre de Naomi Klein, No Logo, c'est pour dénoncer cette capture par Nike d'une partie de la valeur liée à toutes sortes de fantasmes auxquels d'excellents auteurs, d'ailleurs, ont répondu en disant que, bon, ben oui, c'est vrai que quand on achète une Nike, c'est aussi pour jouer au tennis comme Pete Sampras et pas simplement pour porter une paire de baskets. Donc, ça fait partie de l'objet. Donc acceptons ça, l'objet social a un coût, transformer cet objet physique en un objet social a un coût, lequel ? Bah, par coïncidence, dans cet exemple-là, exactement le même que le coût de fabrication de la chaussure elle-même. C'est-à-dire que Nike doit engager en dépenses diverses, publicité, machin, etc., représentants qui vont aller voir les magasins, etc. Nike doit dépenser $17 à nouveau pour fabriquer socialement, cette fois-ci, cette chaussure. Donc, on a maintenant une chaussure qui coûte $34, on va dire pour simplifier, $35, la moitié du coût. Où vont les $35 qu'il manque pour atteindre les $70 dont je parlais ? Mais c'est très simple, c'est tout simplement le coût de la commercialisation. C'est le coût que ça représente de faire qu'on va ouvrir des magasins, on va transporter la chaussure dans le magasin, et il y a des gens qui, dans ce magasin, vont occuper des mètres carrés, etc., et vont vous mettre cette chaussure à votre pied. Donc on voit ici une image extrêmement spectaculaire, mais très proche en réalité des chiffres agrégés qu'on pourrait retrouver par ailleurs, de ce que c'est qu'une société post-industrielle et de l'espace qui y est laissé aux pays en voie de développement. Une société industrielle, vous voyez, c'est, pour ce qui nous concerne, un quart du prix total consacré à la conception sociale de la chaussure, donc rapporté à ce qui se passe chez nous, on va le dire autrement, oubliez le quart importé, c'est un tiers de conception et deux tiers de prescription. Voilà ce que c'est que la société post-industrielle. Et au milieu se niche du travail, mais qui est très faible, mais qui est tout simplement l'assemblage de ce qui a été conçu, du cuir, du lacet, etc. Et le travail lui-même qui fait cet assemblage est complètement inessentiel dans la chaîne de valeur. Voilà pourquoi je disais, notre société post-industrielle dépense toute son énergie à penser de nouveaux biens et à les prescrire. Et on voit que cette complémentarité nouvelle illustre pratiquement, on a envie de dire, tous les métiers. Moi-même, comme enseignant, à ce moment-ci, je suis prescripteur d'un savoir produit par quelques chercheurs dans des revues très dures, très confidentielles, et je prescris le travail qu'ils ont fait. Les médecins prescrivent des médicaments pensés par des laboratoires, etc. Et peut-être que l'industrie, en général, se tertiarise à son tour. Quand on pense à l'industrie automobile aujourd'hui, on est tout à fait capable d'imaginer que dans 20 ou 30 ans, Renault concevra, se dit d'ailleurs, s'appelle d'ailleurs soi-même déjà concepteur de voiture, conçoive la voiture, fabrique le premier exemplaire de la voiture, engage les campagnes de publicité, et puis il y aura bien sûr des garages, des concessionnaires, des garages qui la répareront, mais la fabrication de la voiture elle-même deviendra asymptotiquement, au fur et à mesure que les progrès de la productivité s'intensifieront, une part inessentielle de la valeur de cette dite voiture. Alors, la question évidemment qui se pose, c'est ces barrières à l'entrée sont pour les pays en voie de développement absolument considérables, car les pays en voie de développement n'ont pour l'instant ni consommateurs, qui sont trop pauvres pour ça, ni concepteurs. Donc ils sont forcément à la périphérie d'une histoire qui leur échappe complètement. Une autre manière de se représenter, bon là je suis en retard mais bon c'est pas grave, une autre manière de se représenter ce que signifie cette société post-industrielle pour, on va dire, les lois de la concurrence, c'est au fond de se poser la question de savoir est-ce que cette société dont je viens de parler à plutôt réduire les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants, comme on pensait tout à l'heure que Internet le ferait pour le commerce mondial, ou est-ce qu'elle va les accroître? Et je viens de donner un peu la réponse. On a toutes les raisons de penser qu'elle va les accroître. Pour le dire encore d'une autre manière, quand il ne s'agissait que de fabriquer des voitures, si vous en fabriquez une, vous pouvez la vendre, c'est fini, il n'y a plus de barrière. Mais à partir du moment où il faut être sans cesse entre la conception et la prescription, de l'extérieur, il est beaucoup plus difficile que par les passés de rentrer dans la chaîne de valeur qui est créée chez nous. Alors, je vais donner un exemple des illusions qu'ont parfois les gens concernant ces nouvelles technologies, là en me plaçant du côté de ce qui se passe chez nous, et des vertus qu'elles pourraient avoir en matière d'abolition des barrières à l'entrée pour les entrants extérieurs. Alors je vais vous donner un autre exemple qui est une autre manière de se représenter ces nouvelles barrières à l'entrée à partir d'un exemple télévisuel, proche de l'exemple d'Internet, et qui est l'effet du câble ou des satellites sur la consommation télévisuelle. Donc c'est d'actualité, notre collègue est parti, mais ça l'aurait peut-être intéressé. Alors, lorsque le câble à Paris, le satellite un peu partout dans le monde, les câbles et satellites ont été inventés, mais au point, au début des années 90, on s'est dit, formidable, formidable nouvelle pour l'offre audiovisuelle, télévisuelle, ça va accroître la diversité des programmes et ça va faire que le monde en noir et blanc, bon, il était déjà en couleur, mais à une ou deux chaînes à tout casser de programmes qu'on avait, va être démultiplié par 100, 200, bon, et on aura une infinité, variété de programmes excellents pour la concurrence, pour l'entrée de nouveaux entrants, etc. Bon. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes abonné au câble, bon, ça coûte une certaine somme, mais en tout cas, si vous êtes abonné au câble, vous avez 300 chaînes, enfin, je ne sais pas combien, vous avez beaucoup de chaînes, en tout cas, à votre disposition. La question, malheureusement, n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir, ces chaînes existent certainement, mais qu'est-ce que les gens regardent? C'est ça qui compte. C'est ça qui est la valeur, c'est ça que, évidemment, les agences de publicité regardent, et c'est ça qui fait la différence, du point de vue marchand, avec ce qui existait avant. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, si on regarde le paysage audiovisuel français, on constate que un tiers de l'audience est chez TF1, un tiers de l'audience restante, c'est-à-dire un tiers de 70%, hein, 100 moins 30%, un tiers de l'audience restante, 20%, 21%, est chez Antenne 2. Un tiers de l'audience restante, c'est-à-dire un tiers de 50%, c'est-à-dire ça fait à peu près 15%, est chez FR3. M6, je ne sais pas très bien où on en est, rattrape, et puis c'est tout. C'est-à-dire que le reste, peut-être Canal+, quelque chose, 4%, mais le reste, c'est beaucoup de programmes, c'est beaucoup de variétés, mais personne ne le regarde. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que les gens veulent voir la même chose. Et cette même chose que les gens veulent voir coûte très cher. Et coûte d'autant plus cher à celui qui les montre que d'autres concurrents sont capables, techniquement, de le montrer aussi. Donc, la Coupe du Monde de football coûtera si cher que TF1 aurait pu se ruiner par les sommes qu'elle a dépensées pour avoir le monopole de retransmission. Pourquoi paye-t-elle si cher ? Parce que si elle n'avait pas payé si cher, Antenne 2 l'aurait montré. Et peut-être sinon M6 ou Canal+. Donc, en aiguisant a priori la concurrence, on l'étouffe a posteriori. Car une fois que TF1 a payé les droits de retransmission au tarif astronomique qu'elle a finalement payé, aucun producteur, aucune chaîne indépendante venue de nulle part avec d'excellentes bonnes idées et une caméra comme ça qui en plan fixe est plantée sur quelqu'un, eh bien personne ne peut rentrer dans cette partie. Pour le dire d'une manière encore plus provocante, ou plus simple peut-être, ce que la concurrence entre guillemets qui a été rendue possible par la multiplication des chaînes et des câbles a produit, c'est tout simplement de manière endogène, comme diraient les économistes, de rehausser les barrières de marché, les barrières à l'entrée que la technique, en théorie, aurait permis de réduire. Pour le dire encore d'une autre manière, grâce au câble, on pouvait penser que plein de producteurs nouveaux rentreraient. Ils n'ont pas pu, parce que le pont-levis s'est relevé sur eux, du fait de la hausse des droits de retransmission. Et pour le dire encore d'une manière encore plus simple, on peut dire que le grand bénéficiaire de ces nouvelles techniques, ça n'est pas les producteurs qui payent très cher, ça n'est pas le consommateur qui de toute façon veut voir son match de foot, c'est nos grandes vedettes du football. C'est Zidane qui a ramassé la mise de la mise en concurrence des grandes chaînes de télévision grâce au câble. Son salaire a été exactement indexé sur la concurrence que les chaînes se livrent et qui résulte, encore une fois, non pas par une plus grande entrée, mais par des barrières à l'entrée qui, par les mécanismes de marché que je viens de dire, restaurent ce que la technique a réduit. Et on voit que pour les pays en voie de développement, ces barrières sont absolument considérables. Et la question du no-logo, des marques, joue ici un rôle capital. Les barrières que représentent, non pas simplement les marques, mais le fait que le savoir, les médicaments, tout ce que vous voudrez, sont désormais fabriqués par nous, sont, pour les pays en voie de développement, des barrières qui se substituent à ce que le monde de la technique et de la technologie permet de faire. Ça signe un enjeu essentiel dont je ne vais pas avoir le temps de parler tout de suite, qui est celui de la propriété intellectuelle, qui, dans cette division du travail entre les riches qui conçoivent et les pauvres qui fabriquent, eh bien, laisse ouvert une indétermination considérable, le prix de la propriété intellectuelle, qui, on le voit par l'exemple de Zidane, laissée à elle-même, est parfaitement capable de récupérer ce qui pourrait être, pour les pays en voie de développement, entre guillemets, une chance de s'industrialiser. Quand on parle des pays en voie de développement, évidemment, on parle d'un ensemble de gens qui sont en fait très, très hétérogènes. Il y a dans cet ensemble de pays en voie de développement, au moins et à minima, disons, deux grandes catégories qu'il faut distinguer. Il y a la catégorie des gens très pauvres, qui sont tout simplement la majorité de la planète. Il y a presque 3 milliards de gens, donc sur un total de 6, donc ça fait presque 50%, qui vivent dans des pays où le revenu moyen est inférieur à 2 euros par jour. Et il y a le reste qui vit pour un tiers dans des pays riches, nous, et puis pour le reste dans des pays style, on va pas dire Chine, mais style côte est de la Chine, des pays émergents qui sont en train de s'industrialiser et pour lesquels, bon, si on passe outre ce que je viens de dire, il y a une possibilité de s'insérer dans la roue de la prospérité des pays riches. Mais ayant beaucoup parlé des pays riches, Zidane, de l'Inde et de la Chine, je vais dire quelques mots maintenant des pays les plus pauvres. Ces pays les plus pauvres, donc, vivent dans des pays où on gagne en moyenne moins de 2 dollars par jour. Le nombre de gens qui vivent avec moins de 1 dollar par jour dépasse le milliard d'habitants. Et donc, on est ici face à une pauvreté qui est évidemment absolument incroyable. Alors, quelles sont les raisons de cette immense pauvreté ? Alors, il y en a plusieurs, mais pour aller très vite, le plus simple, c'est de dire que pour ces pays, il ne s'est au cours des deux derniers siècles pratiquement rien passé. C'est-à-dire que ce sont des pays qui n'ont pas vu passer le train de la prospérité, des technologies, de tout ce dont je parlais tout à l'heure à propos de la division du travail. Ce sont des pays qui sont tout simplement restés, alors d'une manière en grande partie pathologique, restés entre deux mondes. Ils ont vu se détruire leur vieille société ancestrale et ils n'ont pas vu émerger une nouvelle société industrielle. C'est ce qui fait que ces pays sont très souvent sur-urbanisés par rapport à ce qu'ils pourraient être, que les capitales du tiers-monde sont des bidonvilles et que les gens s'entassent entre ces deux mondes qui sont, disons, l'ancien de toute éternité, la société rurale, et pas encore la société industrielle. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de ce qui se passe, mais je voudrais souligner ici un point extrêmement important. Il y a beaucoup de causes à ça, mais il y en a une qu'on a en général du mal à voir en face, et c'est la démographie de ces pays. La question démographique n'est déjà plus un problème en Chine, n'est plus un problème dans les pays dits émergents, mais elle reste un problème dans les pays les plus pauvres. En Afrique, par exemple, on prévoit qu'au cours des 50 prochaines années, le nombre d'Africains va doubler et il va passer d'environ, je vais vous le dire tout de suite, d'environ 850 millions d'Africains aujourd'hui à 1,8 milliard d'Africains en 2050. Les femmes africaines sont encore en moyenne sur un régime de 6 enfants par femme. Et ça, c'est le résultat de cet entre-deux dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces pays en voie de développement sont passés d'un régime, encore une fois, rural, classique, à un entre où, on va dire, les progrès leur sont venus, chichement, dans le cas de l'Afrique, mais sont venus, les médicaments, la réduction de la mortalité infantile a été considérable, en particulier du fait des travaux de l'OMS dans les années 50 et 60, et le résultat a été une explosion démographique absolument considérable qui a priver ces pays les plus pauvres de tout espoir de pouvoir construire quoi que ce soit quand la population est multipliée par deux tous les 30 ans, comme ça a été le cas pour ces pays. Quelques chiffres pour bien vous faire peur. L'Égypte, qui compte aujourd'hui 70 millions de personnes, qui va dépasser les 100 millions dans les 20 prochaines années, comptait au début du 20e siècle, la population égyptienne au début du 20e siècle, c'était 13 millions de gens. Donc ça a été multiplié par 10 sur un siècle. Et je dirais, il n'y a pas besoin de rentrer dans de grandes controverses pour se rendre compte qu'un rythme comme celui-là signifierait, pour y faire face, des efforts d'investissement, d'amélioration de la productivité agricole, d'urbanisation, qui sont tout simplement au-delà de ce que ces pays peuvent faire compte tenu de leur pauvreté de départ. Le taux d'urbanisation dans ces pays depuis 1950 a été 4 fois supérieur à celui que nous avions nous-mêmes connu pendant notre exode rural du 19e siècle, en étant à cette époque-là incapable d'y faire face de manière satisfaisante. Et quand on parle du choc des civilisations, très souvent, cette question démographique est au cœur du débat. C'est-à-dire que la question qui est posée ici, c'est, au fond, est-ce que notre modèle occidental, industriel, etc., est un modèle qui n'est compatible qu'avec une seule chose, qui est ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire on réduit la mortalité infantile, on allonge l'espérance de vie, mais soit vous basculez dans notre modèle occidental, qui est que la démographie se réduit, et au lieu d'avoir beaucoup d'enfants, on accepte, on décide, on désire en avoir moins pour mieux s'en occuper, les envoyer à l'école, leur donner la santé, etc., et passer dans un régime de croissance économique fondé sur l'éducation, etc., des enfants bien traités en moindre nombre que l'on a dans ces sociétés. Ou est-ce qu'il y a un conflit entre les sociétés modernes, qui basculent le moderne, entre guillemets, autant de guillemets que vous voudrez, qui bascule dans cette transition démographique, ce qui naturellement change de fond en comble le statut des femmes, puisqu'elles cessent d'être les agents reproducteurs de l'humanité, donc elles s'affranchissent du modèle patriarcal. Est-ce qu'il y a une opposition frontale entre ce modèle de civilisation qui est le nôtre et un modèle patriarcal, ancestral, archaïque, dans lequel, eh bien, les progrès qu'on apporte répète la malédiction que Malthus, au début du XIXe siècle, avait prédit pour l'Angleterre, à savoir que tous les progrès de l'humanité ne résulteraient jamais en autre chose qu'une augmentation de la démographie et jamais en une augmentation du bien-être des gens. Donc voilà une question radicale qu'il faut avoir le courage de regarder en face pour traiter de la question de ces pays très pauvres. Et c'est ici que la question du choc des civilisations, en tout cas au moins pour un économiste, peut faire un sens. Alors, lorsque les économistes se penchent sur cette question de la transition démographique, ils ont toutes sortes de modèles, de prédictions théoriques. Vous allez voir qu'ils ne sont pas plus fameuses que celles qu'ils avaient pu faire pour le commerce international au XIXe siècle. Toutes sortes de modèles qui disent que la transition démographique, elle se produit lorsque les femmes sont happées par le marché du travail, que donc elles représentent, rester à la maison et avoir des enfants représente un coût d'opportunité si lourd qu'on préfère avoir moins d'enfants pour tirer les bénéfices du marché du travail. Cet appel du marché du travail, il est soit créé par le marché du travail lui-même, ce qui fait qu'un cercle vicieux peut très bien ne pas se produire. Le marché du travail n'appelle personne, donc on reste chez soi et ça ne se passe jamais. Soit il est poussé par la scolarisation des femmes, et c'est un des grands leitmotifs de la Banque mondiale, que de mettre en priorité de ces programmes la scolarisation, non pas en général, mais en particulier la scolarisation des femmes, car à ses yeux, c'est le remède qui permet de faire ça. Donc on est face à cette incertitude absolument radicale. Comment en sortir, et est-ce qu'il faut dire qu'il y a un cercle économique autoréalisateur, on n'en sort pas, donc on n'en sort pas, etc. Et donc jamais l'appel du marché du travail ne se produira parce qu'il y a un excès d'offres de gens, trop d'enfants, bon, je ne sais pas quoi, et du coup jamais on ne peut faire le basculement que nous-mêmes nous avons connu. Ou est-ce que donc c'est une explication économique, ou est-ce que c'est une explication d'ordre culturel, ben, les gens tiennent à leur société patriarcale, un point c'est tout, que ça vous plaise ou pas. Bon. Alors, la réponse à cette question, c'est que, en fait, tout simplement, cette transition démographique que tout le monde attend, dont on ne sait pas sous quelle forme elle se produirait et pourquoi elle ne s'est pas produite plus tôt, eh bien, cette transition démographique, elle est tout simplement en train d'avoir lieu maintenant. C'est-à-dire qu'on est en réalité, sans que beaucoup de gens le sachent, sinon quelques spécialistes, en train, à l'heure où je vous parle, de basculer d'un modèle à un autre. Quand on regarde l'ensemble des pays pauvres dans leur ensemble, et il n'y a qu'une seule exception à ce que je vais dire maintenant, c'est l'Afrique subsaharienne. Quand on regarde l'ensemble des pays pauvres, alors on est passé de 6 enfants par femme en 1950 en moyenne, à 5 enfants en 1970, à 4 enfants en 1980, et en moyenne aujourd'hui à 3 enfants par femme. Selon les experts des Nations Unies, en 2050, on sera dans ces pays pauvres hors l'Afrique passé en deçà du seuil de reproduction démographique, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'il faut pour que la population ne décline pas, et qui a été fixé plus ou moins conventionnellement, mais au doigt mouillé, par l'ONU à 2,1 enfants par femme. Ce chiffre va être franchi et on n'est plus tout à fait sûr aujourd'hui qu'à la fin du XXIe siècle, la population humaine continuera de croître. Il est possible en réalité qu'elle aura commencé à décroître. Aucune religion n'est épargnée par ce mouvement et aucune région de la planète non plus, à part l'Afrique subsaharienne. L'Égypte, dont je parlais tout à l'heure, est passée entre 1950 et 2000 de 7 enfants par femme à 3,4 enfants par femme. L'Indonésie, pays musulman non arabe, est passée de 5,6 enfants à 2,6 enfants. En Inde, on est passé de 6 enfants à 3,3 enfants. Le Brésil, très catholique, est passé, lui aussi, à 2,6 enfants par femme, à partir d'un chiffre qui était le double il y a 20 ou 30 ans. Aucun pays n'échappe à cette transition. Question. Sauf l'Afrique. Sauf l'Afrique. Sauf l'Afrique. Non, aucune, j'ai dit aucun pays, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'était aucune religion. Aucune religion n'échappe à ça. Et donc, je disais ça contre les tenants du choc des civilisations. Alors, on va reparler de l'Afrique autant que vous voudrez, il n'y a pas de problème. Hein. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que, pour le monde dans son ensemble du coup, et en moyenne, la transition démographique semble se produire aujourd'hui. Alors, je vous disais les explications que donnaient les économistes. Il faut qu'il y ait un appel sur le marché du travail, etc. En fait, ce qu'on a constaté en regardant ces statistiques, c'est qu'il n'y a quasiment aucune corrélation entre les pays où se produise cette transition démographique et les indicateurs dont je parlais, marché du travail, scolarisation des femmes et autre chose. Il n'y a tout simplement d'ailleurs aucune corrélation entre transition démographique et participation des femmes au marché du travail. Donc l'explication est ailleurs. Et l'explication, elle est que les femmes des pays en voie de développement se sont tout simplement, pour le dire brutalement, affranchies toutes seules du modèle patriarcal. Elles ont changé au cours de cette période leur modèle de référence. En partie par mimétisme. Les Chinoises ne veulent plus d'enfants pour faire comme les Japonaises, par exemple, dit-on. Et ainsi de suite. Donc en fait, les tenants du choc de la civilisation n'ont pas tort de mettre l'aspect sur les problèmes culturels, qui sont en l'espèce beaucoup plus importants que les problèmes économiques. Mais simplement, ça fonctionne exactement contre ce que eux disent. Il y a à l'œuvre dans le monde, aujourd'hui, la diffusion, si on suit cet index, qui est celui de la démographie féminine, il y a la diffusion d'un modèle nouveau, d'une nouvelle relation des femmes à la société qui brise entièrement le vieux modèle patriarcal qui auparavant était associé à la forte démographie dont on parlait. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Et si on met maintenant tous ces morceaux bout à bout, et je vais conclure là-dessus, et je serai content de prendre des questions sur l'Afrique, mais je vais arrêter maintenant. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette chose-là? Ça nous apprend que, pour le dire très simplement, la manière dont souvent on se représente la mondialisation, c'est de dire, la mondialisation, c'est en réalité une globalisation économique, et on va dire, c'est une manifestation de l'impérialisme de l'économie en général. C'est-à-dire que la première tentation qui vient à l'esprit, c'est de se représenter que la mondialisation est, pour le dire simplement, une invention, une fabrication du capitalisme auquel, en vis-à-vis, les peuples résistent. Je crois, sans avoir le temps de tout bien montrer de la démonstration maintenant, mais on peut en parler évidemment tout de suite, je crois qu'il est plus sage de dire que c'est exactement le contraire qui est à l'œuvre. Le capitalisme a créé, pour le meilleur ou pour le pire, dans le monde, de nouveaux horizons d'attente pour les gens. Et le vrai scandale, c'est qu'en réalité, le capitalisme ne délivre absolument pas, ne produit absolument pas la contrepartie de cet horizon d'attente. Le capitalisme ne diffuse pas ses richesses, il les montre à la télévision, et le ressentiment des pays en voie de développement est, à mon avis, beaucoup plus fort à cause de cette frustration, de cette incapacité presque substantielle qu'a le capitalisme à diffuser ses richesses, qu'à l'inverse, cette vocation spontanée, réputée irrépressible, à exporter son modèle à l'ensemble du monde. Donc évidemment, en disant cela, ça ne veut pas dire que le capitalisme, du coup, deviendrait une bonne chose. C'est évidemment tout à fait autre chose. Le capitalisme est capable, on l'a vu dans notre propre histoire au 19e et au 20e siècle, de tous les excès. Il a besoin d'une régulation, mais le reproche, il me semble, qu'au vu des chiffres que je vous ai donnés, on doit lui faire, c'est bien plus sûrement de ne pas du tout s'intéresser à l'Afrique que de s'y intéresser trop. Voilà, je vous remercie.
Merci.
Vous posez la question, est-ce que les correctifs dont vous avez parlé, le commerce équitable, l'abolition de la dette du tiers-monde, tout ça, ce sont des foutaises, c'est de doux rêveurs. Enfin, qu'est-ce que vous recommandez pour essayer de mettre fin à toutes ces situations scandaleuses que vous nous avez décrites et que nous connaissons? La troisième question, puisque vous êtes agrégé de mathématiques, pensez-vous qu'il y a une chance que les sciences économiques se trompent moins, deviennent un peu moins des sciences inexactes? Merci beaucoup.
Alors je vais d'abord répondre par aux deux premières questions, la dette du tiers-monde et le commerce équitable. Bon, la dette du tiers-monde, à la limite, c'est le plus simple, parce que c'est presque la même chose que l'histoire de... Relevez la main parce que je vous ai perdu de vue. Voilà, merci. C'est presque la même chose que la question des médicaments. C'est-à-dire que la dette du tiers-monde, c'est une créance qui est maintenue sur des gens qui, tout simplement, ne peuvent pas payer. Et cette créance est maintenue... presque les mêmes raisons qui font que les industries pharmaceutiques ne se soucient pas de donner des médicaments qu'il ne leur coûterait rien de donner aux pays en voie de développement. C'est la démonstration la plus extraordinaire d'une espèce d'indifférence. Alors cette fois-ci, dans le cas des industries pharmaceutiques, elle était d'ordre commercial. On pouvait voir la raison, la logique qui est en amont de ce comportement, mais dans le cas de la dette du tiers-monde, c'est bien pire, puisqu'il s'agit tout simplement des représentants de gouvernement élus démocratiquement qui refusent cette chose-là de peur de créer un précédent dans 50 ans vis-à-vis d'autres débiteurs qui pourraient arguer du fait qu'on a déjà annulé la dette. Donc là, on est dans une situation où j'ai envie de dire tout simplement qu'il y a tout simplement un décalage considérable de notre côté entre la conscience qu'on a du monde et ce qu'on fait. Je disais tout à l'heure qu'il y a un autre décalage du côté des pays en voie de développement. Ils nous voient et nous ne les voyons pas. Eh bien, c'est ce côté-ci qui est illustré par la question de la dette des pays en voie de développement. Alors, pour aller au-delà de cette réflexion générale, si on veut parler plus concrètement, et d'ailleurs ça fait le lien avec les médicaments, ça fait aussi le lien avec la question de l'écologie, au fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, non pas sur ce point particulier ou sur tel autre, etc., mais on a envie de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire en général pour essayer d'habiter ce monde par des institutions qui soient plus dignes de ceux dont ils sont censés être les représentants. Alors, il y a évidemment plusieurs modèles qui viennent à l'esprit et dont aucun, malheureusement, n'est très attirant. Le premier modèle, ce serait de dire... ce qui fait que chez nous, nous avons la CMU, le RMI, même si elles sont toutes les deux imparfaites, tout ce qu'on voudra, mais en tout cas, nous avons des instances de régulation sociale qui sont capables de prendre en compte les segments les plus pauvres de notre pays et qu'on ne retrouve pas l'équivalent de ces dispositifs au niveau planétaire, c'est parce qu'il manque au niveau planétaire une instance démocratique mondiale qui rendrait des comptes à ses citoyens et qui, du coup, sous la pression démocratique, serait bien obligée de faire que ces choses ne se produisent plus. Donc, un certain nombre de gens, d'ailleurs dont les écologistes souvent, se représentent que l'issue, c'est un État mondial qui serait capable à la fois de régler les problèmes planétaires, hein, des gens comme, pas vous forcément, mais Greenpeace pense que les États sont un échelon inutile aujourd'hui et qu'il faudrait un État mondial capable de décider les émissions, etc., d'ozone. Bon, et donc, c'est vrai que c'est le modèle qui vient à l'esprit. C'est vrai que c'est le modèle qui se présente à nous pour dire, au fond, si je dois comparer ce que nous réussissons à faire dans une zone démocratique donnée et ce que nous ne parvenons pas à faire au niveau mondial, c'est parce que nous n'avons pas les institutions, le cadre politique correspondant. Bon. Quand on dit ça, est-ce que, l'ayant dit, on peut croire de manière crédible que c'est même un horizon d'attente éloigné suffisant pour œuvrer pour qu'il advienne ? Franchement, moi, je n'aurais pas de problème. Je voudrais bien, mais je crois que l'honnêteté oblige à dire que non. L'honnêteté oblige à dire que non. Quand on voit, par exemple, en Europe, qui doit résoudre des problèmes de supranationalité infiniment plus simples que ceux dont on parle. L'Europe, c'est une quinzaine de pays, on va d'accord, ils vont doubler, qui sont tous proches, qui ont la même histoire, qui ont le même niveau de revenu pour l'essentiel, ou en tout cas qui l'auront bientôt, et qui sont incapables de se doter des instruments d'une supra-souveraineté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait d'ailleurs une très mauvaise chose, que ça affaiblirait le travail des gens de bonne foi et qui sont parfaitement sincères et qui ne sont pas malicieux et qui pensent que ça affaiblirait en fait le travail de la démocratie que de l'étendre à l'échelon européen. Et je crois que l'Europe en fait, pour nous, est un formidable laboratoire des idées politiques. C'est-à-dire qu'il faut voir l'Europe comme quelque chose qui advient ou qui n'advient pas, mais c'est quand même aussi et d'abord quelque chose qui montre dans ses faiblesses ce que pourrait signifier transposer à l'échelle de l'extraordinaire hétérogénéité du monde une idée comme il suffirait d'avoir un État démocratique mondial pour que les choses se règlent. Qu'est-ce que montre l'Europe ? L'Europe montre qu'en fait, ce qui fait la difficulté, encore une fois dans un cas historiquement a priori très simple, d'une construction supranationale, c'est que tout simplement, il n'y a pas que des peuples, il y a des peuples et des États, que ces États sont les gardiens d'une histoire, ils incarnent quelque chose que les peuples en question, en général, je pense, à juste titre, souhaitent maintenir et qui ne se prêtent pas au saut qui consisterait à abolir, à subsumer les États dans un registre supérieur. Donc ce que l'Europe montre, c'est qu'en fait, on doit vivre avec trois pôles rivaux et concurrents, qui sont les États, qui sont par définition inégaux. C'est-à-dire qu'on peut tous penser qu'on est au moins politiquement égaux entre nous, parce que ne serait-ce qu'au moment du vote, de toute façon, on aura le même poids, mais les États sont en substance inégaux. Il y a des gros États, il y a des petits États. Jamais la Suisse, la Chine ne seront de mêmes États, quelle que soit la question de la richesse. Et à quoi s'ajoute évidemment la question de la richesse. Donc les États sont des acteurs qui veulent persévérer dans leur être et qui sont en essence inégaux et qui donc ne peuvent envisager que de la coordination. Ils ne peuvent pas se dissoudre. Il y a des peuples. Donc en Europe, donc pour les États, c'est le Conseil qui incarne ce pôle de discussion. Bon, on va bien, c'est ça, ils se couchent à 4h du matin, etc. Bon, mais voilà, c'est ça les États. Et au moins pour le monde, il faut sans doute s'attendre à vivre avec ça. Et puis il y a les peuples qui sont représentés entre guillemets au Parlement, qui sont une grande tribune de discussion. Et puis il y a la Commission. La Commission européenne, qui est un objet à part, inédit, qui, entre guillemets, incarne une idée du bien public, c'est-à-dire qu'il parle au nom d'Europe. Bon, je pense que cette trilogie est très intéressante. On a la Commission, c'est l'idée, on a le Conseil, c'est l'État, et on a les peuples, c'est le Parlement. Je crois que le monde, en général, peut emprunter à cette trilogie. Il y a les États. Alors là, pour l'instant, on a le G7 qui est une caricature de ce que serait le Conseil européen transposé au monde. Il faut un Conseil des États où l'Inde, la Chine soient représentées. Il faut passer d'un G7 à un G10 dans lequel peut-être l'Europe serait représentée par la Commission européenne ou par le président, peu importe, et où il y aurait les grands blocs de la planète pour être représentés, selon un principe auquel on pourrait d'ailleurs imaginer. Il y a l'ONU qui est un grand forum dont la principale vertu est d'être délibératif, c'est-à-dire c'est un endroit où on parle, on exprime ça. Et puis il y a l'équivalent de la Commission qui doit pouvoir, qui est le domaine des idées, c'est-à-dire le nôtre, qui doit être capable de dire il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et donc il faudrait que se transpose le modèle de la Commission au niveau du monde, et je pense qu'il faudrait donc une agence pour le développement, une agence pour l'environnement, qui soit capable de dire voilà ce qui doit se faire, voilà ce qui ne peut pas se faire, ou des agences qui soient capables de dire pour les médicaments, l'OMS, elle existe déjà, mais qui est une autorité qui puisse le dire et l'imposer. Voilà, dans le domaine de la santé publique, ce qui est inacceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, je ferme cette immense parenthèse pour dire qu'il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de solutions simples qui viennent à l'esprit. Il faut accepter des solutions de compromis, du genre de celles que l'Europe est en train d'accepter pour elle-même, mais en revendiquant ce modèle. C'est un modèle imparfait, mais c'est un modèle qui est infiniment préférable, soit à l'hégémonie du plus grand État, soit simplement le brouhaha de l'ONU où aucune décision n'est jamais prise, soit à un modèle unique où des agences indépendantes diraient toutes seules ce qui est bien et ce qui est mal. Je crois qu'il faut retrouver l'unité de ces trois termes en les constituant l'une en face de l'autre et à parité si c'est possible pour que justement la force des idées puisse s'opposer à celle des États et qu'elle puisse trouver éventuellement un écho. Donc voilà cet ensemble un peu complexe qui est, en le disant comme ça, un peu tristounet, je reconnais, c'est-à-dire c'est pas une démocratie mondiale, etc., mais je crois que si l'Europe pouvait, dans la corbeille des idées qu'elle apporte au monde, au fond penser non pas pour elle-même et en rivalité avec les États-Unis, etc., bon, même si c'est utile aussi, mais penser ce qu'elle est en train de faire pour en tirer à l'échelle du monde un certain nombre d'implications sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, je crois que crois que ça serait très utile. Et donc, même chose pour le commerce équitable. Je pense que c'est évident qu'aujourd'hui, on se désintéresse complètement. Ça revoit, enfin, c'est la même chose qui est redite d'une autre manière. On se désintéresse totalement de la question de savoir si le prix des matières premières, pourquoi et comment le prix des matières premières peut fluctuer du simple au double en l'espace d'une décennie. C'est-à-dire qu'on est incapable même de réfléchir aujourd'hui à ce que pourraient être des instances de régulation. Moi, j'ai beaucoup d'idées sur ce sujet en particulier, mais je ne vais vraiment pas le faire. Et sur la science économique, je crois qu'un mot bon, qui n'est pas une pirouette, je pense qu'on attend des économistes qu'ils disent ce qu'il doit advenir. Or, les économistes ne savent pas faire ça. Les économistes sont plus comme les historiens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui peuvent, j'ose dire scientifiquement, débattre sur le point de savoir si, par exemple, l'histoire que je vous ai racontée au XIXe siècle est vraie ou pas. C'est-à-dire, les économistes ont des instruments analytiques, empiriques, etc., qui leur permettent de trancher expérience passée à l'appui ce qu'il est vrai ou faux de dire d'une époque. Par exemple, la crise de 1929, les gens pensaient une certaine chose. Il y a eu 20 ans de travaux sur cette crise et aujourd'hui, il y a un consensus des économistes sur ce qu'elle est, pourquoi elle a eu lieu. Et naturellement, ce consensus donne des idées sur ce qu'il faudrait faire pour qu'elle ne se répète pas, mais il n'y a rien de plus que ça. Cette particularité n'invalide pas, à mon avis, le statut de science qu'on peut donner à l'économie. Et très honnêtement, les économistes qui font la prévision dans notre profession sont généralement des charlatans. Des gens qui disent « il va se passer ça » sont en général des gens qui n'ont pas compris justement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de disciplines scientifiques qui n'ont pas de pouvoir de prédiction. Le darwinisme est une science jusqu'à un certain point. Il n'a aucun pouvoir de prédiction. Il est incapable de dire comment la girafe va évoluer. Mais il est capable scientifiquement de dire quelles sont les étapes qui ont fait ceci ou cela. L'astrophysique, jusqu'à un certain point, n'a pas tellement de pouvoir de prédiction, ne serait-ce que parce que, comme l'économie, elle n'a pas d'expérience naturelle, on ne peut pas refaire un deuxième bing-bang, donc on est dans la spéculation, mais on peut réfuter un certain nombre d'idées fausses, en tout cas, quand l'interprétation du passé est en jeu. Voilà.
Daniel Cohen, je vous remercie.